Nous avons vu durant ces deux premières conférences donc l'objectif, le bonheur, comment être heureux, et bien vivre l'amour avec ses quatre dimensions. La volonté de Dieu, elle nous apparaît dans notre devoir d'État qui se manifeste finalement dans des choses assez simples, hein, là, donc l'amour de notre conjoint, l'éducation de nos enfants, et puis les tâches qui nous reviennent du fait de notre vie, des tâches aussi modestes que le ménage, le soin domestique, les courses, le jeu avec les enfants, les relations familiales, tout cela, hein, c'est ce qui constitue notre, ce qui finalement nous sanctifie, nous conduit au ciel. Souvenez-vous de cette parole de Sainte Thérèse d'Avila, j'ai trouvé la grâce dans les eaux grasses, hein. Et bien on peut transposer ça dans la vie familiale, on trouve la grâce dans toutes ces activités qui constituent la vie familiale. Donc, nous n'allons pas davantage insister sur ce point, et nous allons entrer dans le dernier point de cette sanctification, de cette connaissance par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je l'ai évoqué ce matin, c'est les circonstances, les événements. Quand j'ai parlé de bonheur dans les familles, normalement, dans votre esprit, a dû se dresser une objection. N'y a-t-il pas en fait une impossibilité concrète à vivre le bonheur dans les familles en raison des épreuves nombreuses et multiples qui nous frappent, hein, c'est une expérience commune de l'humanité et spécialement des familles que les épreuves ne nous manquent pas, hein, elles sont de tout genre, épreuves professionnelles, un échec, un licenciement, un chômage, difficultés dans les relations professionnelles. On sait notamment qu'à l'heure actuelle, dans certaines entreprises, on a des séries de burn-out, hein, des conditions managementales, enfin de direction, des ressources humaines qui sont absolument inhumaines et qui font que ben justement des gens craquent. On peut avoir aussi dans chaque famille, dans certaines familles, des difficultés financières, hein, voilà, des inquiétudes pour des questions matérielles, des achats, des ventes. On peut avoir plus grave des problèmes de santé, des maladies, voire des morts tout simplement. J'ai appris hier, j'enregistre les messes au couvent, qu'une maman, mère de 8 enfants, venait de mourir le 27, donc tout récemment, hein, d'un cancer. Donc évidemment, ça c'est un tsunami, un séisme, hein, quand ça arrive dans une famille, et ce n'est pas si inouï que cela, ça se produit. Nous pouvons ainsi avoir très douloureux les mésententes conjugales, les mésententes familiales, familiales au sens large, hein, c'est bien sûr à l'intérieur de la famille stricto sensu, mais même, hein, les difficultés notamment liées aux héritages, hein, aux transmissions. Alors c'est que ce sont des vrais nœuds de vipère qu'il y a à ce moment-là, et bien de grandes souffrances, de grandes difficultés, hein, les beaux-frères, les belles-sœurs, les belles-mères, etc. Tout ça, ça peut être quelque chose d'assez lourd, donc nous connaissons cela. Et puis aussi une grande épreuve que l'on peut connaître dans une famille, c'est un enfant qui tourne mal, hein, et ça arrive. On a fait tout ce qu'il fallait, hein, on l'a payé des bonnes études dans une école hors contrat, on a pris en famille, on l'a bien éduqué, et voilà qu'à 18 ans il envoie tout balader. Hein. Ça c'est un vrai coup de poignard pour les parents dans leur cœur, hein, une chose comme ça, et ce sont des choses qui arrivent, hein, vous voyez, dans le domaine de l'éducation, on a une obligation de moyens, pas de résultats, hein, ça c'est très important. Il y a certaines professions, le garagiste, il y a une obligation de moyens et de résultats, parce que bon, c'est quelque chose qu'on maîtrise, la mécanique, normalement, enfin s'il a eu la formation adéquate, il n'y a pas trop de surprises. Avec l'humain, c'est beaucoup plus compliqué, hein, on s'adresse à une liberté, on fait tout ce que l'on peut. Et c'est votre devoir, je dirais, devoir primordial des parents, d'éduquer, de mettre en place toutes les conditions qui vont permettre une bonne éducation. Mais après, eh bien, il y a un facteur, je dirais, non maîtrisable, hein, qui fait que, eh bien, voilà, la blessure du péché originel, des événements aussi, des mauvaises rencontres, des mauvaises fréquentations, bah, tout ça peut conduire à des déraillements spirituels, des déraillements humains, hein, et c'est évidemment quelque chose de très très douloureux, qui n'est pas là aussi si inouï dans les familles. Alors, est-ce que tous ces événements doivent irrémédiablement nous ôter la possibilité d'être heureux? La réponse est non. La réponse est non. Alors, je pourrais vous donner tout un tas de bonnes raisons théologiques, mais selon ma bonne habitude, je préfère rester dans le concret pour ne pas vous endormir davantage à cette heure-ci. Hein, on va prendre tout simplement le cas concret de la famille Martin, qui, on le sait, ont été très heureux en famille de la vie même des époux eux-mêmes. Et pourtant, lorsqu'on connaît d'un peu plus près leur vie, on se rend compte qu'ils ont connu énormément d'épreuves et des très lourdes. D'abord, épreuve que l'on connaît tous dans toute famille, et même des familles de saints, hein, il y avait des différends entre monsieur et madame. Donc si vous avez des différends entre vous, c'est tout à fait normal, ça fait partie du programme, parce qu'on a des différences de caractère, des différences d'histoire, des différences de tempérament, des différences de jugement, des différences d'appréciation des situations. Et donc, par exemple, monsieur Martin était un extraverti, madame Martin était beaucoup plus, je dirais, voilà, perfectionniste. Et donc, dans les choix éducatifs, bah, il y avait des différences sur les options à prendre. Ils discutaient, ils ne se crêpaient pas le chignon, mais voilà, ça donnait lieu à de petites frictions, mini-frictions qui sont absolument inévitables dans la vie familiale. Hein. Donc premier type d'épreuve que vous connaissez forcément, là j'ai pas besoin d'être prophète ni de lire dans les cœurs, je sais que forcément dans chaque famille il y a ce genre de difficultés. Bon, c'est les premières, ce sont pas les plus graves, ce sont pas les plus difficiles, elles sont absolument inévitables, même dans un couple de saints, on le sait. Après, il y a donc ces différences de tempérament conduisent aussi à des, donc dans le choix éducatif, ça conduit aussi par exemple sur les activités, très concrètement. Monsieur Martin c'était, comme je dis, un grand extraverti, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager. Et madame Martin, au contraire, c'était les antipodes, c'était la casanière à 100%. Donc pour elle, sortir de son jardin, c'était déjà toute une aventure. Donc forcément, quand vous avez des grosses différences de tempérament comme ça, d'appréciation, de goût, eh bien, ça suppose des sacrifices. Monsieur Martin a fait des sacrifices, madame Martin a fait des sacrifices, hein, sur ces questions de, voilà, de choix et dépenses. Troisième épreuve qu'ils ont connue, et qui d'ailleurs va conduire madame Martin certainement à la tombe plus rapidement que prévu, une vie de labeur harassante. Madame Zélie Martin, donc chef d'entreprise, hein, du point d'Alençon, se levait tous les matins à 5, non, elle se levait plus tôt, elle allait à la messe à 5h30, donc elle devait se lever vers 5h, 4h45, quelque chose comme ça. Elle allait tous les matins à la messe à 5h30. Ensuite, c'était la journée de travail à 12h, hein, un travail très minutieux, très accaparant, hein, qui l'a rendu d'ailleurs quasiment pas aveugle, mais enfin elle avait des gros problèmes de vue, parce que c'est un travail où il faut regarder des choses toutes petites dans des mauvaises conditions d'éclairage, et qu'il a usé prématurément. Hein. Donc voilà, ça c'est une épreuve aussi que l'on peut connaître, une vie vraiment fatigante au point de vue physique, hein, pour des mères de famille, pas seulement pour des dans la vie professionnelle. Et ils ont connu cela. Et puis ils ont eu aussi, ça ne console, un enfant très difficile. On connaît bien sûr toutes les enfants Martin, Sainte-Thérèse, mais bon, les autres filles aussi qui étaient assez exceptionnelles. Mais ils ont eu la terrible Léonie. Terrible Léonie qui était l'enfant rebelle par excellence. Dès qu'on lui disait d'aller à droite, elle allait à gauche. Hein, donc c'est un peu pénible. D'autant plus que avec cet esprit de contradiction, je dirais, viscérale, elle n'était vraiment pas douée sur le plan naturel. Autant elle avait des sœurs qui étaient Sainte-Thérèse, était toujours première de classe avec 2 ans d'avance, par exemple. Elle avait une mémoire exceptionnelle, elle était intellectuellement très très forte. Hein. Eh bien Léonie, voilà, elle pataugeait complètement au point de vue scolaire. C'était une catastrophe. Au point de vue moral, c'était pas mieux. Hein. Et en fait, quand madame Martin apprend qu'elle a le cancer, qu'elle va mourir probablement d'ici quelques mois, sa grande inquiétude, hein, eh bien, c'est Léonie. Qui va s'occuper de Léonie? Que va devenir Léonie? Madame Martin, donc, qui, comme bonne mère de famille chrétienne, avait un seul souci, conduire tous ses enfants au ciel, eh bien, elle se disait, Léonie, elle donnait pas cher de son salut, a priori. Bon, vous savez que maintenant Léonie est en voie de canonisation, donc comme quoi, on se fait parfois des cheveux blancs, hein, ce qui est important c'est de prier, hein, et puis de faire le nécessaire, et finalement la grâce passe à travers, eh bien, les misères, les faiblesses, donc ne jamais désespérer d'une situation difficile dans l'éducation d'un enfant. Quand on prie, quand on fait le nécessaire, eh bien, le bon Dieu a toujours plus d'un tour dans son sac, hein, pour récupérer des situations catastrophiques. C'est la grande leçon du calvaire, hein, quelque chose qui est abominable en soi, mais de tous ces malheurs, de toutes ces misères, le Seigneur sait tirer son épingle du jeu et conduire à bon port. L'important, c'est que l'on prie pour cet enfant, que l'on fasse tout ce qui dépend de nous, et puis évidemment qu'il y ait aussi une réponse de l'enfant. Ça, les parents ne sont pas maîtres de cela, mais s'il y a eu tout cet antécédent, toutes ces prières, eh bien on peut raisonnablement espérer que tout cela tourne bien. Voilà, et puis bien sûr encore d'autres épreuves, hein, qui les ont frappés, terrible aussi pour des parents, la mort de 4 enfants sur les 9 qu'ils ont eus. 4 sont morts en bas âge, 3 dans les premiers mois de leur vie, et la petite Hélène, 5 ans et demi, qui était ravissante. C'était un amour de petite fille, cette petite Hélène, il la chérissait. hein, eh bien, elle meurt dans des conditions pathétiques. Quand on lit, on peut pas lire ça sans verser de larmes. Hein. La mort de la petite Hélène, c'est quelque chose de dramatique. Donc, il y a vraiment, il faut bien voir qu'ils n'ont pas eu la vie drôle à vue humaine. Hein. Et puis la mort évidemment de Zélie, hein, qui est aussi quand même quelque chose de catastrophique. Elle a 44 ans, je crois, quand elle meurt. C'est ça. C'est évidemment un drame dans la famille. Hein. Donc, vous voyez, une famille qui a été profondément éprouvée et qui pourtant, de l'aveu même des parents et des enfants aussi, sont profondément heureux. Hein. Donc, je dis tout cela pour nous convaincre que ce ne sont pas nos épreuves que nous avons tous. Forcément, en famille, il n'y a pas de famille sans épreuves. Eh bien, ce ne sont pas ces épreuves qui peuvent nous ôter le bonheur, ou du moins la joie. Le bonheur, vous voyez, c'est un petit peu, on revient à la distinction fondamentale que je vous ai indiquée tout à l'heure à propos de l'amour, hein. Il y a une dimension sensible et une dimension spirituelle. Quand un malheur nous frappe, on n'est pas libre de ne pas ressentir de la tristesse. C'est tout à fait normal, hein. On est triste sensiblement parce qu'un malheur, ça provoque, je dirais, nécessairement la tristesse. Par contre, on peut, dans cette souffrance sensible, conserver une vraie paix intérieure, hein, qui est vraiment ancrée dans notre volonté, dans notre intelligence, c'est-à-dire la part spirituelle de notre être, et c'est ce que les personnes profondément unies à Dieu vivent. Il en va un peu de même, c'est une comparaison que j'aime bien prendre, de notre être comme de la surface des océans. Lorsque une tempête se déchaîne au-dessus de la fosse des Mariannes, donc le point le plus profond des océans, à 11 km sous la surface de la mer, au large du Japon, hein, bien, vous allez voir des vagues gigantesques, c'est une mer déchaînée, mais si vous descendez à 11 km dessous, le calme plat, hein, silence, calme. Eh bien, le cœur de l'ami de Dieu, c'est un peu cela. Quand les épreuves arrivent, eh bien, inévitablement, la sensibilité se cabre, elle est malmenée, elle va dans tous les sens, mais au plus profond de notre être, unis à Dieu, nous gardons, nous conservons la foi. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental à toujours avoir à l'esprit. Hein, on peut être malmené et ne pas, voyez-vous, s'attrister de ne pas être fort. On voudrait se dire, bah oui, je vais, hein, comme on lit parfois dans certaines vies de saints qui sont peut-être un peu teintées de stoïcisme, on voit des gens à qui il arrive des catastrophes et qui continuent à tracer leur route tels des poids lourds que rien ne peut arrêter. Bon, en fait, c'est pas la vérité, ou du moins c'est ce que l'on peut voir extérieurement, mais c'est pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. Fatalement, si la personne a un cœur normal, humain, eh bien, quand elle est frappée par une épreuve, elle ne peut pas ne pas ressentir de la tristesse et être bouleversée. Le Christ a souffert avec tristesse au jardin des Oliviers. Mon âme est triste à en mourir. Il a vraiment peiné. Il a été bouleversé dans sa sensibilité, mais son cœur a été profondément uni à Dieu. La fine pointe de son âme jouissait. Et c'est pas seulement en raison de sa nature, de son union hypostatique, de sa nature divine, mais même humainement, au plus profond de son être humain, il jouissait d'une paix profonde, même au moment les plus douloureux, les plus terribles de son existence, la passion. Et nous pouvons, nous devons suivre cette voie que le Christ nous ouvre dans ses épreuves. Voilà. Alors. Ces épreuves, en fait, sont des chances, hein, ce sont des perches, ce sont des tremplins que le Seigneur met sur nos routes pour que nous prenions de l'altitude, afin que notre amour se purifie. Ce fameux amour sensible dont je vous ai parlé, c'est celui normalement qui vous a mis, je dirais, en mouvement vers votre conjoint. Ah, il était ravissant. Oh, il était beau, il était fort. Hein, c'est l'amour sensible, on s'attache un peu à l'extérieur, aux qualités corporelles, aux qualités intellectuelles. Mais cet amour, il demande à grandir, il demande à se purifier. Et c'est précisément les épreuves que nous allons rencontrer qui vont faire qu'on va s'attacher à l'être aimé non plus pour les avantages que l'on en reçoit, mais parce que c'est lui, parce que c'est elle. Hein. Et quand après 50 ans de mariage, il sera un peu décati, hein, qu'il n'aura plus le même allant, qu'il n'aura plus voilà, les heures de jeune premier, ou les silhouettes pas de mannequin, parce que c'est des silhouettes complètement déformées, mais des silhouettes voilà, très avenantes, eh bien, hein, on restera profondément, et même beaucoup plus profondément aimant, hein, parce qu'on sera attaché, on aimera la personne pour ce qu'elle est en elle-même, et non pas pour ce que ça nous apporte. Donc voyez-vous, finalement, et je vais dire peut-être une chose paradoxale, mais d'une certaine façon, plus on a de croix, plus ça veut dire qu'on a les épaules larges, et plus ça veut dire que le Seigneur veut nous rapprocher de son cœur. Alors je ne dis pas soyez malheureux, vous serez heureux, mais ce que je peux vous dire, c'est que si on vit ces épreuves unies au Christ, elles ont une immense valeur pour notre progrès, pour finalement ce qui est notre vrai bien. Le bon Dieu, voyez-vous, c'est Sainte Thérèse qui exprimait ça, elle disait il permet des croix un peu à contre-cœur. Ça lui fait de la peine de nous voir souffrir, hein, mais il sait que c'est bon pour nous. Et donc, c'est comme le médecin, quand il doit opérer quelqu'un, il sait qu'il est tranché dans le vif, c'est un peu douloureux. Oui, c'est douloureux, mais c'est pour le bien de la personne. Et donc, avoir ce regard surnaturel sur nos vies, sur nos épreuves. D'autant plus que la vie commune ne manque pas de difficultés. C'est ce que nous allons voir maintenant. Une harpie du Parlement anglais disait à Churchill « Si j'étais votre femme, j'empoisonnerais votre thé. » Et Churchill lui avait répondu « Eh bien moi, si j'étais votre mari, je le boirais. » Parce que une vie conjugale avec un conjoint difficile, ça peut être une véritable épreuve. Et on va voir justement ces épreuves qui peuvent bien guetter notre mariage pour s'en prémunir. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de la maturité humaine, qui nous permet justement de vivre au moins cet amour. Alors, j'ai pas été très clair sur la question de l'amour. Il y a deux dimensions, il y a trois dimensions dans l'amour. L'amour sensible, l'amour naturel, spirituel, vouloir faire le bien de l'autre. Et puis, l'amour surnaturel qui va élever cet amour sensible. Et donc, seul l'amour surnaturel est méritoire pour le salut. Et on peut faire comme Félix Le Sœur quand il était en état de péché mortel, quand il est séparé de Dieu, on peut faire des actes bons naturellement, mais qui ne sont pas méritoires pour le salut. L'attention qu'il a pris pour son épouse malade, qui étaient des actes très bons au point de vue naturel, du fait qu'il n'était pas en état de grâce, eh bien cela n'était pas utile pour son salut. Alors ça le prépare à recevoir la grâce, bien sûr, et c'est très important de faire ces actes naturels, mais il faut savoir que ce n'est pas en soi salutaire. C'est pour ça que saint Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, quand bien même je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Voilà, c'est une petite précision parce que je sais qu'il y avait j'avais pas été très clair sur le sujet. Donc l'immaturité, peut-être que je vous indique les quelques critères pour que vous compreniez en fait de quoi il s'agit. Alors on peut pas se refaire, mais ça peut nous aider à peut-être à corriger le tir, à voir certaines attitudes qu'on a et qui montrent qu'il y a quelque chose à corriger. La caractéristique de la personne mature, c'est qu'elle est autonome, elle est ni fusionnelle, ni dépendante, ni dominatrice, ni dans l'isolement. Ça c'est dans le type de relation qu'elle entretient. Elle est capable, très important, d'accepter et de choisir ce qui la fait souffrir pour le bien de l'autre. En fait, c'est tout simplement la capacité à aimer. Elle respecte la liberté d'autrui, elle a le sens du réel. L'enfant, quand il naît, son grand principe d'action, c'est le principe de plaisir. Il n'agit finalement que pour ce qui lui est agréable, au point de vue sensible. Et l'éducation a pour but de lui permettre de passer au-delà de ce plaisir sensible et de chercher le vrai bien. Et c'est ce qu'on appelle le principe de réalité qui est caractéristique de l'adulte mature. La personne mature est consciente de ses richesses, de ses capacités, de ses talents. Il ne s'agit pas de se dénigrer si ce n'est pas vrai, mais elle est aussi capable, et c'est très important, de reconnaître ses limites et ses faiblesses. Elle accepte la frustration, les épreuves, le caractéristique. L'enfant, c'est très net. Un petit enfant, quand vous le contrariez, il explose. Eh bien, si un adulte explose comme un petit enfant, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait mûr au point de vue humain. Il est conscient de ce qu'il doit à autrui, la personne mature. Il accueille avec simplicité et reconnaissance le bien qui lui est fait. Il est capable de se donner. C'est vraiment le point fondamental, le test de la maturité. Il assume ses choix, il est fidèle à ses engagements, il respecte les règles et les lois. Voilà, donc c'est un petit peu une cartographie de la maturité humaine qui est donc si importante pour pouvoir vivre l'amour dans nos couples. Autre cause d'erreur dans l'amour, de difficultés dans la vie familiale, c'est justement cette erreur sur ce qu'est l'amour vrai. On confond l'amour sensible, l'amour spirituel. J'avais été très frappé par un de mes camarades d'école. J'avais un peu perdu de vue. Et puis 8 ans après son mariage, il m'écrit une lettre. On n'a pas de relation très très fréquente. Il m'écrit une lettre. Je quitte mon épouse. parce que je ne l'aime plus, je ne ressens plus rien pour elle, alors je la quitte. Hein. Ça a été un drame évidemment pour ces deux enfants. C'était quelqu'un qui n'avait rien reçu au point de vue humain, au point de vue, je dirais, catéchétique, et donc qui vivait complètement dans, qui réduisait l'amour au sentiment. Et puisqu'il n'avait plus de sentiment, hein, il me dit, c'est pas que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais c'est que je ressens plus rien pour elle, donc je ne l'aime plus. Vous voyez à quel drame peuvent conduire cette ignorance sur la distinction fondamentale entre l'amour spirituel et l'amour sensible. Aussi, grande source de difficultés dans la vie familiale, ce sont nos vices, hein, nos mauvaises tendances, qui peuvent empoisonner l'existence. Le plus néfaste de ces vices, c'est bien sûr celui qui s'oppose le plus à l'essentiel du mariage, à savoir l'amour, hein, et le vice le plus opposé à l'amour, c'est l'égoïsme, hein, l'amour désordonné de soi-même, qui ramène tout à soi. Pierre Dac avait une parole assez judicieuse pour décrire l'égoïsme. Il disait, le véritable égoïste est celui qui ne pense qu'à lui quand il parle d'un autre. L'égoïste n'aime pas l'autre, ou s'il l'aime, c'est pour lui. Il se fait le centre de toute chose, et il n'agit que pour lui-même. Et Satan nous donne un bon conseil, si tu ne veux pas devenir moi, évite de dire je. Hein, il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler sans dire moi je. Hein, c'est comme ça, on a un décentrement de soi-même à opérer. Donc premier vice, voilà. Donc si on constate qu'on a tendance à être égoïste, que fait-on? Eh bien, c'est le principe du combat spirituel, on pose des actes qui s'opposent à cette tendance. J'ai tendance à ne penser qu'à moi, et eh bien, typiquement à table, je me sers sans faire attention à ce que les autres vont pouvoir avoir, et eh bien, j'en suis bien conscient, et eh bien, pendant le carême et pas seulement, je décide de me servir en dernier, ne pas me jeter sur la nourriture, voilà. Alors ça, c'est surtout vrai pour les enfants. À votre âge, je pense, c'est plus trop les problèmes que vous rencontrez, mais transposer dans vos vies, hein, comment je suis un petit peu égoïste, et on l'est tous un peu, plus ou moins, mais on l'est tous un peu. Donc on a vraiment un combat mené à spirituel sur cette tendance centrifuge qui ramène tout à nous, hein, et qui nous fait faire le centre du monde. Et c'est par des petits actes concrets qu'on passe au-delà de cela. Aussi, vice très, très dommageable dans la vie familiale, l'impatience et la colère. On en a parlé ce matin avec le patron et la patronne, c'est un véritable poison. Donc il y a des efforts et on peut, alors là souvent on se dit, ah ben, je suis colérique donc c'est comme ça, donc mon conjoint supporte. Ben non. On a des exemples de grands colériques qui sont devenus doux comme des agneaux, à force de grâce bien sûr d'abord, mais aussi d'efforts personnels. Et on n'est pas conditionné à rester un irascible invétéré, même si nous sommes nés avec de l'irascibilité assez réactive. Vous avez un exemple de saint, tout simplement, saint François de Sales, hein, qui était un grand violent, saint François de Sales, comme ses frères. Et alors, à la fin de sa vie, saint Vincent de Paul, qui était un de ses amis, il disait, comme Dieu doit être doux pour que Monsieur de Genève, saint François de Sales, soit aussi doux. Hein, donc il avait complètement été transformé par la grâce, hein, et vaincu sur ce défaut dominant qui était la colère chez lui. Donc voilà, on n'est pas, il n'y a pas de fatalisme, hein, on a des vices et il faut les attaquer bille en tête. C'est tout à fait un discours de carême qui convient bien. Donc nous connaissons nos vices, hein, en général, et puis si vous avez du mal à les trouver, demandez à votre conjoint. En général, il aura tout un tas de bonnes idées pour vous, parce qu'on est souvent assez mauvais juge de sa cause, hein, et par contre notre conjoint voit des choses que nous on ne veut pas trop voir, hein, mais que lui voit bien avec pertinence. On peut aussi demander des conseils à son accompagnateur spirituel, voilà. Voilà. Et puis, si on a ce vice de la colère, hein, savoir demander pardon, c'est très important, c'est un des piliers du mariage. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, nous dit saint Augustin dans la règle, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans une communauté religieuse. Et on pourrait dire, quelqu'un, il va falloir qu'il change sur ce point-là, parce que dans le mariage, s'il ne demande jamais pardon, on a forcément des torts. Hein. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'en demander plus que pas assez, vous voyez, du pardon. Hein, ça met de l'huile dans la mécanique. On a un père chez nous, il demande toujours pardon, alors qu'il a aucune raison de s'excuser. Bon, c'est toujours sympa, hein. Et je pense que c'est des tempéraments aussi, hein. Il y en a d'autres au contraire qui ont plus de mal, vous voyez. Ça dépend un peu de la fierté personnelle, mais justement c'est un très bon exercice. Si nous avons du mal à demander pardon, eh bien n'hésitons pas à en mettre une double couche, hein. Ça ne fera jamais de mal à personne, ça ferait beaucoup de bien à votre orgueil et beaucoup de bien à votre conjoint. Voilà, donc le pardon très important. Et indispensable, parce qu'on a toujours des occasions de se froisser, même voilà, on a perçu de la méchanceté dans le comportement du conjoint, bah oui. Hein, et nous-mêmes, nous avons peut-être parfois de la méchanceté. Vous voyez, donc on sait qu'on est pauvre et misérable, et donc le Seigneur miséricordieux nous invite à être miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde. Par contre, si vous ne pardonnez pas, eh bien le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Et alors là, parce que nous, on est débiteurs de 100 deniers, hein, mais vis-à-vis du Seigneur, c'est 10 000 talents. Hein, donc c'est des sommes colossales, c'est des milliards d'euros, si vous voulez, hein, si on convertit en chiffres modernes. Donc, on a quand même intérêt à pardonner, quoi. Même d'un point de vue purement comptable, les chiffres montrent que le pardon, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Voilà, autre grosse cause de difficulté dans la vie familiale, c'est les difficultés à parler, difficultés de communication. Ça m'arrive de préparer des jeunes au mariage, et je suis tranquille lorsque ces fiancés parlent entre eux, qui savent dire les choses, qui savent s'exprimer. Je suis inquiet lorsque j'ai un des aspirants au mariage qui est fermé. Hein, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il... Voilà, et qui est un petit peu... voilà, c'est toujours une source d'inquiétude, parce que dans le mariage, si l'on ne parle pas, eh bien ce sera très difficile fatalement. On a vraiment besoin d'avoir ces temps de qualité où on met les choses à plat, on exprime les choses, on les dit sans violence, hein, sans passion autant que possible, avec un discours non violent. Gary Chapman donne des bons conseils pour pratiquer ce discours. On écoute d'abord. Hein. Un test montrait que dans les conversations, on s'interrompait en moyenne au bout de 17 secondes. Donc en fait, on ne laisse pas parler l'autre. La première chose, on écoute. On cherche à comprendre ce qu'il a voulu dire. On cherche à comprendre l'origine de ses difficultés, de ce qu'il fait souffrir quand il l'exprime. Et avec la meilleure volonté, on tâche évidemment de corriger, on répond, on explique pourquoi on se comporte là. Alors en fait, souvent ce qui fait capoter ces communications, c'est un peu notre orgueil. En fait, on a du mal à reconnaître nos torts, ou on ne les voit pas, mais c'est une grâce à demander, vraiment une pratique. Et un couple où on sait se parler est un couple qui pourra traverser des grandes difficultés, tel un bon bateau qui traverse les tempêtes sans chavirer. Donc écouter, comprendre, présenter son ressenti, décider des efforts à faire ensemble, hein, c'est vraiment un point fondamental. Donc problème, on va voir également, pour sortir, donc ça peut arriver, il y a, vous savez, un peu les saisons du mariage, hein, le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver, pour sortir des situations difficiles, la première chose la plus importante... C'est un peu comme ce qui est arrivé, la différence de comportement entre Saint François d'Assise et Luther. Saint François d'Assise, arrivant à Rome, donc au XIIIe siècle, voit des choses qui sont peu reluisantes dans la curie romaine. Luther, arrivant 200 ans plus tard, voit également des choses peu reluisantes. Et 300 ans plus tard. Et devant ces situations, eh bien, ils vont avoir deux réactions opposées. Saint François d'Assise, voyant tous ces malheurs, dit « Il faut que je me convertisse ». Luther, voyant tous ces malheurs, dit « Il faut qu'il se convertisse ». Eh bien là, vous avez une clé vraiment capitale pour sortir des crises. Quand ça va mal dans notre famille, la première chose à faire, la première chose sur laquelle j'ébarre, c'est moi-même et pas l'autre. Et on a vu des couples comme ça, où en difficulté, où un des conjoints s'est dit, bien, je vais pas chercher à convertir l'autre, je vais pas chercher à le changer, c'est pas possible, moi je vais chercher à changer, je vais modifier. Bon, on a eu des discussions, on sait qu'il y a telle et telle chose qui lui est à charge, et bien je vais le faire. Et souvent, voyez-vous, le conjoint, s'apercevant de ses efforts, il s'en rend compte, eh bien, est lui-même touché par la grâce, hein, et il y a vraiment des résurrections de couples en grande difficulté qui se fondent sur ce principe d'action, non pas vouloir convertir l'autre, hein, si on n'a pas vraiment barre là-dessus, mais vouloir changer soi-même avec l'espoir que ça changera, ce qui n'est pas sûr. Mais en tout cas, si on part de ce principe-là, on part avec des bonnes oreilles, je dirais, avec quelque chose de juste en tête. Alors, quelques points sur lesquels il faut faire attention dans la vie familiale. Attention à la fatigue. C'est un couple très charmant, hein, que je connais depuis des années, et qui m'ont dit que le plus précieux conseil qu'ils ont reçu lors de la préparation au mariage, c'était celui-ci. Faites attention à la fatigue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc monsieur et madame sont mariés, ils ont eu coup sur coup des enfants, et au bout de 5 ans de mariage et de 5 enfants, eh bien, madame et monsieur étaient complètement épuisés, à cran, et ils étaient sur le point de se séparer. Hein. Donc vous voyez, c'était arrivé très loin. Et à ce moment-là, il y a l'ange gardien, ou le Saint-Esprit, qui leur a rappelé cette parole, « Attention à la fatigue ». Et donc ils ont commencé, ils ont changé leur vie, ils ont commencé à faire des siestes. Hein. C'est parfois une charité de savoir se reposer pour le bien de tous. Hein. Ils n'ont pas hésité à faire des siestes, pas de la paresse. Quand on est fatigué, ben, il faut se reposer. Si on peut, évidemment, il y a parfois des situations. Voilà. Mais au maximum, organiser sa vie pour savoir prendre le repos. Et puis aussi, alors ils étaient assez proches des milieux Saint-Pie-X. Hein. On leur avait prêché au niveau de la régulation des naissances, la pieuse insouciance. Hein. Donc évidemment, 5 enfants, 5 ans. Mais il y a aussi, hein, l'homme est appelé à agir de façon prudente et raisonnable, et donc ils ont adopté les méthodes naturelles, hein, qui a permis d'espacer les naissances. Hein. Un bon principe, on a un enfant quand le précédent est propre, hein, c'est-à-dire à peu près tous les 2 ans, on peut mettre un peu plus, un peu moins, enfin voilà. Après, il y a les Wonder Woman qui arrivent à avoir les enfants comme ça tous les ans et qui sont en pleine forme, très bien. Mais en général, c'est pas forcément le cas, et on a vraiment besoin de faire attention aussi à cette dimension d'épuisement, de fatigue. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment être un poison pour la vie conjugale. Deuxième, alors une autre menace, mais alors particulièrement violente à notre époque, c'est les écrans, hein, pour la vie familiale. Alors ça, c'est pas seulement pour la vie familiale, c'est pour beaucoup de choses. On est en train de vivre une révolution, hein, au point de vue sociétal, au point de vue culturel, avec ces écrans. Ça bouleverse complètement en fait les relations, hein, la vie familiale notamment. Alors ces écrans, ils ont plusieurs effets néfastes. Ils vont nous faire perdre un temps précieux, hein, d'abord, première chose. Les statistiques de connexion au téléphone, en moyenne, je ne sais plus, en France, je crois que c'est pas loin de 3 heures qu'on passe en moyenne sur son téléphone. Et ces 3 heures, c'est des consultations souvent assez insipides. Hein, c'est du Facebook, c'est du WhatsApp, c'est du TikTok, je ne sais quoi. Hein. Tout ça, c'est du temps perdu. Le temps, c'est un don précieux de Dieu, et c'est du temps perdu qui nous empêche de faire ce qu'on aurait à faire. Hein, le fameux devoir d'État, qui est la volonté de Dieu pour nous, eh bien, souvent ça passe à la trappe. Hein, on avait telle corvée, évidemment, entre regarder la série Netflix un peu aguichante et puis faire je ne sais quelle corvée ménagère, on peut avoir la tentation de se laisser facilement. Hein, et c'est un premier niveau. Ça va avoir aussi des conséquences assez néfastes dans les relations humaines. On ne se parle plus, hein. Non seulement on ne fait plus son devoir d'État, mais on ne se parle plus. Et dans la vie familiale, comme je le disais, hein, si on n'a pas des vrais temps d'échange, des vrais temps de communication, eh bien, il doit y avoir un warning, un bouton rouge, un voyant rouge qui s'allume, danger. Et les réseaux sociaux, l'usage intempestif des écrans constituent une vraie menace pour ces temps de qualité. Ça va aussi avoir un effet, alors ça ce sont plutôt les neurologues qui le constatent, un effet d'irritabilité générale, hein, d'agacement beaucoup plus prompt, hein, c'est pas seulement la fatigue, mais il y a des effets en fait qui sont étudiés par les spécialistes sur le côté irritant et troublant, hein, au point de vue du sommeil notamment, au point de vue de l'attention. C'est une chose qui m'a frappé il y a quelques années, quand j'étais jeune, les gens étaient quand même beaucoup plus calmes au volant. Maintenant, il y a des gens qui s'énervent comme des furies. Et j'en avais discuté avec un homme qui venait, un vieux sage qui venait au couvent, hein, et pensait que il avait vraiment observé que c'était lié avec l'arrivée justement de ces écrans. Hein. Il y avait eu une dégradation dans l'état psychologique, dans l'état de capacité à se maîtriser, qui se traduit notamment sur la façon dont on se comporte au volant, qui est un bon indicateur en général de l'état affectif des personnes. Ça a évidemment un impact aussi sur la vie mentale, hein, sur la vie spirituelle. Ça nous farcit la tête d'images, de bruits, de sons, qui en fait sont une véritable conspiration, comme disait Bernanos, contre toute forme de vie intérieure. Je pense que si on ne maîtrise pas les écrans, alors il y a d'excellentes choses dans les écrans. Plusieurs m'ont parlé du carême 40, c'est excellent, je ne vous détourne pas de faire un bon usage de vos écrans, et il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, mais vous voyez, les écrans, ce sont des bons esclaves de très mauvais maîtres, comme l'argent. très bon esclave, très mauvais maître. Et donc il s'agit d'en être maître, hein, et de retrancher ce qui va avoir d'envahissant. Bon, là je suis resté dans des consultations, enfin sur des choses assez neutres, hein, les nouvelles, mais même les nouvelles, vous voyez, ça paraît neutre, mais ces sites là qui nous rebattent les oreilles de toutes les nouvelles catastrophiques du monde, en fait ça donne aussi une vision très très sombre des choses, hein. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, le mal, les médias en fait se nourrissent du mal, et donc ça vous donne une vision tronquée de la réalité. Vous oubliez finalement tout le bien qui se fait, et il y en a, mais seulement ce bien il est discret. Évidemment, la petite carmélite Sainte Thérèse à son époque, au fin fond de son carmel, personne ne savait tout le bien qui se faisait par son intercession et par son intermédiaire, hein. Et vous, eh bien, mère de famille, père de famille, qui vous efforcez d'éduquer correctement vos enfants, qui avez une vie spirituelle fidèle, eh bien vous faites beaucoup de bien, mais évidemment les médias ne viendront pas vous interroger et présenter votre vie à la foule. On va vous parler, eh bien, des catastrophes, des malheurs. Donc vous voyez, vraiment avoir cette conscience et savoir prendre de la distance par rapport à tous ces messages qui nous envahissent et qui troublent notre vie. Et puis alors évidemment, hein, l'addiction au téléphone, donc addiction, alors bien sûr des jeux vidéo, alors c'est plutôt pour les jeunes, hein, ça, mais il y en a qui meurent. J'ai entendu dire qu'il y avait un gosse qui était mort d'inanition devant son poste. Il était tellement pris par ces jeux qu'il se nourrissait plus, il a fini par mourir. Donc ça c'est vraiment une plaie, hein, quand on a des jeunes qui sont pris par cela. Et d'ailleurs, bon, je vais en parler quand je donnerai des indications sur l'éducation des enfants, hein. Il faut vraiment au maximum éloigner vos enfants de ces choses-là, hein. Les ados ne sont absolument pas en mesure de maîtriser. Déjà pour les adultes on voit que c'est pas facile, mais alors vous imaginez les ados, hein, quand ils sont confrontés à cela, c'est plus fort qu'eux. Ils n'ont pas les ressources humaines pour pouvoir résister. Et puis toutes les addictions, alors la pornographie, hein, qui est un véritable fléau. Là on a une marée noire qui a déferlé. Il y a encore, quand j'étais jeune, la pornographie c'était très, il fallait dans des kiosques spécialisés oser affronter le vendeur qui vendait ses journaux, voilà, il fallait être abonné à Canal+ pour avoir des... Maintenant téléphone, en 5 secondes vous avez tout un tas de contenus bien plus pervers et bien plus, voilà. Donc ça s'est démocratisé, si je puis dire, et c'est devenu vraiment un fléau social terrible, hein. Le niveau moral s'est considérablement effondré dans la société depuis cette facilité avec laquelle on accède aux pornographies. La pornographie, sachant qu'en plus, vous avez bien sûr des conséquences, hein. Là aussi, les neurologues examinent un petit peu les effets destructeurs. Il paraît que c'est, à un certain niveau, on est quasiment... à l'équivalent des drogues dures, hein, sur les effets neurologiques et asservissants. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux et de très grave. Donc voilà, il y a un vrai danger. Donc là, vous voyez, parfois on cherche à savoir en carême quel effort faire. Eh bien, je crois que tout le monde peut s'interroger sur l'usage qu'il a de son téléphone, hein, et de son ordinateur, et puis se mettre des barrières. Donc on ne peut pas vivre sans ça à notre époque, c'est plus possible, et ça le sera de moins en moins, hein, mais... voilà, savoir se donner des horaires, par exemple, je consulte à tel endroit. Si j'ai une tendance un peu à aller voir des mauvaises choses, eh bien, voilà, on se débrouille pour ne pas allumer son téléphone. Hein, il y a des familles où on laisse le téléphone à l'entrée. Vous voyez, un panier, tout le monde laisse son téléphone, c'est très bien. Comme ça, on parle, téléphone sonne, on le coupe, etc. Hein, voilà. Donc, trouver des stratégies pour mener ce combat spirituel contre ce fléau, enfin c'est pas un fléau, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de très bonnes choses, hein. On en parlait tout à l'heure à table, vous avez plein de gens un certain nombre de gens qui se convertissent en cherchant sur internet des questions. Donc on voit des questions religieuses, hein. On a un jeune là qui est rentré chez nous il y a 2 ans, qui était un Suédois, fils d'athée, d'origine luthérienne au point de vue religieux, mais qui n'avait rien reçu, champion de boxe thaï de Suède, hein, c'est un Suédois, et en fait, bon, il y a eu un accident de compétition, parfois les malheurs aident, hein. Et donc il n'avait plus grand chose à faire si ce n'est une convalescence, et donc il a commencé à chercher. Il avait quand même des aspirations, il disait l'argent, le pouvoir, les plaisirs, ça ne me satisfait pas, et donc il a commencé à chercher un peu le sens de la vie sur internet, et il a été voir du côté de la religion, et il est tombé sur les sites anglo-saxons très performants, il a découvert la foi, et ça, il a été ébloui, et maintenant il est religieux, vous voyez. Alors il est encore novice, il n'a pas fait ses deux, mais il a l'air de bien marcher dans la voie du Seigneur, hein. Donc il y a des belles choses qui se passent par internet, c'est un bon outil quand on le maîtrise bien, mais ça peut être évidemment une plaie, un cancer quand on en est dépendant, quand on en est asservi. Voilà, autre menace, de la vie conjugale, c'est tout ce qui touche à la sexualité et à la contraception. Hein. C'est aussi quelque chose de, voilà, qui tue l'amour, hein, qui tue l'amour vrai. Mère Teresa refusait, hein, ça doit nous interpeller, Mère Teresa qui passe un peu pour la sainte humanitaire, refusait de confier à l'adoption des enfants dont elle savait que les parents pratiquaient la contraception. Elle disait, leur amour n'est pas vrai. Et je ne veux pas qu'ils déforment les enfants que je leur confie. Et donc, hein, c'est voilà. Et c'est intéressant, j'avais suivi il y a quelques années, ici d'ailleurs, peut-être dans cette salle ou à côté, hein, un témoignage comme ça d'un couple qui s'était converti et qui avait vécu dans la contraception pendant des années, et en fait, qui n'était absolument pas satisfait de leur vie conjugale, leur vie affective. Hein, et ils ont vécu une conversion, et notamment, ils sont passés aux méthodes naturelles, et leur amour a été complètement transformé. Donc là, il peut y avoir un écueil aussi, hein, un vrai piège pour l'amour, hein, c'est une sorte de, voilà, on est toujours dans l'amour passionnel. Voilà, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Je vais peut-être dire quelques points au sujet de l'éducation. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes les uns et les autres pour l'éducation des enfants. Après, les grands-parents, ils ont aussi la possibilité d'éclairer leurs enfants, hein, sur des choses simples. Votre premier devoir d'État, vous l'avez bien compris, dans la vie, dans le mariage, c'est d'aimer votre conjoint. Votre premier conjoint après Dieu, votre premier prochain après Dieu, c'est votre conjoint. Il y a un ordre dans la charité, hein, Dieu par-dessus tout, et puis ensuite, eh bien, ensuite c'est votre conjoint que vous avez aimé par-dessus, hein, et ensuite vos enfants. Donc vos enfants, pour eh bien les aimer, il y a plusieurs choses qui sont absolument indispensables. C'est d'abord leur transmettre la foi. Quand ils ont 3, 4 ans, les mamans, c'est elles qui ont cette charge spécialement dans la vie familiale, de transmettre la foi, prennent leurs enfants sur leurs genoux, elles prennent la miche de pain, excellent catéchisme en images, hein, et elles leur expliquent depuis la création, d'où l'on vient, où l'on va, et quand vous transmettez cela à 3-4 ans, eh bien à 80 ans, ils seront encore croyants. Hein. Lénine disait, donnez-moi un enfant à 4 ans, à 80 ans, il sera toujours communiste. Ce qui est assez vrai, mais dans le mauvais sens, bien sûr, puisque ce qui est transmis dans le jeune âge, ça a une importance capitale. Donc ça, c'est votre premier devoir. Ne ratez pas ce tournant, hein, si vous avez affaire. Et puis si vous voyez que vos enfants qui ont des petits-enfants omettent cette chose-là, c'est vraiment quelque chose d'important à leur rappeler. La prière en famille également, très importante. Hein, on apprend donc par la parole, par l'enseignement, à travers ce catéchisme, et puis on apprend par l'exemple. Là aussi, la famille Martin est très édifiante. Sainte Thérèse disait que c'était en regardant prier son père qu'elle avait compris ce que c'était que la prière. Elle voyait prier un saint, elle voyait qu'il parlait à Dieu, elle avait compris, et très tôt elle a fait oraison en se référant à cette prière familiale, à la prière de son père. Et puis aussi, donc, troisième grande opération de l'éducation, c'est l'acquisition des vertus, donc eh bien, savoir encourager le bien et punir le mal. Voilà, savoir se donner, hein, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, voilà, savoir rendre service, savoir s'oublier, identifier les vices qu'ont vos enfants pour les aider à progresser. On peut avoir une attitude un petit peu négative dans l'éducation en pensant surtout à l'aspect négatif, corriger ce qui ne va pas. Hein, il faut surtout encourager beaucoup dans le bien. Hein, donner confiance à ses enfants, savoir vraiment les féliciter opportunément quand ils ont fait quelque chose de bien, savoir les encourager, savoir leur montrer la beauté du bien. En fait, si vous faites tout le but, c'est d'arriver à leur faire aimer le bien, mais vraiment que le bien leur tienne à cœur. Hein. Et si vous arrivez à cela, eh bien, vous avez tout gagné, hein, parce qu'ils auront en fait une colonne vertébrale. Si vous avez juste mis un carcan avec des interdits, eh bien, à 18 ans, paf, hein, ça peut exploser. Parfois, la grève prend et puis ils quittent le carcan et puis ils ont vraiment intériorisé le bien, la loi naturelle. Mais si c'est resté uniquement quelque chose d'extérieur, eh bien, il peut y avoir pas mal de dégâts arrivés. À l'âge adulte, hein, il y a pas mal de. Je vois à Saint-Dominique, là, les bons chanoines se constatent qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ont quitté la terminale et qui ne tournent pas très bien. Hein. Il peut y avoir quelque chose d'essentiellement extérieur, hein, qui n'a pas été vraiment intériorisé. Donc, ce travail de la vertu. Donc, attention à tout ce qui est écran. Hein. Globalement, tant qu'ils n'ont pas 18 ans. Voilà. Maintenant, je sais que même dans les écoles, c'est pratiquement obligatoire, mais vraiment une extrême vigilance des parents vis-à-vis de ça. Hein. Là, les statistiques sont effarantes, hein, notamment sur les dégâts qui se produisent sur des enfants. Parfois, maintenant, en jardin d'enfants, on a des petits garçons qui cherchent à agresser des petites filles de 4 ans. Hein. Non, mais des trucs hallucinants. Et qui, parce qu'ils imitent ce qu'ils ont vu sur le téléphone du frère aîné. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui sont tout à fait. Voilà. Et puis aussi, dans la mesure du possible, donc le milieu familial est primordial, et puis il y a les auxiliaires précieux des familles, ce sont les écoles, hein, les bonnes écoles, c'est-à-dire les écoles où on apprend donc les bonnes méthodes, hein, méthodes syllabiques pour apprendre à lire, calcul, histoire avec les chronologies, etc. Donc vous êtes bien servi ici à Versailles, et donc là ça vaut la peine de faire des sacrifices. Vous voyez, des gens finalement qui se soucient plus des vacances qu'ils vont passer à Megève plutôt que de l'éducation de leurs enfants, mais il y a une priorité, hein, le bien spirituel de vos enfants, ça doit être vraiment votre grande priorité. Voilà. Et puis vie spirituelle. Voilà, je regarde le temps qui nous reste. Oui, donc je suis. Voilà, je vais arrêter ici. Donc, en guise de conclusion, si on recherche un petit peu si on repart de notre point de départ, je mettrai du bonheur dans les familles. Vous avez compris que ce bonheur, il est tout à fait possible. Hein. La condition pour vivre ce bonheur, eh bien, c'est d'entrer dans cette vocation auquel vous êtes engagé au jour de votre mariage, hein, d'aimer le bon Dieu, bien sûr, par-dessus tout, hein, d'aimer, et plus vous aimerez le bon Dieu, plus vous aimerez votre prochain. Il n'y a pas de concurrence entre l'amour de Dieu et du prochain, et plus on aime Dieu, plus on aime ses frères, si on est dans un amour authentique. Hein. Donc cet amour, il va, eh bien, se traduire, il va se matérialiser à travers la fidélité au commandement, à travers la loi divine. Il va plus se préciser dans le mariage à travers cette fidélité au devoir d'État, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, et puis les événements qui vont façonner notre existence. Et sur ces événements, on a vu les paradoxes qui peuvent se présenter, ces épreuves inévitables qui frappent nos familles, mais qui ne sont pas pour autant nécessairement gage de malheur et je dirais d'effondrement spirituel. Au contraire, ces épreuves, on l'a vu avec la famille Martin qui a été frappée de nombreuses épreuves, hein, toutes ces épreuves, à travers toutes ces croix, à travers toutes ces épreuves, le Seigneur fait un chef-d'œuvre de nos vies. Donc je vous invite à embrasser amoureusement toutes ces épreuves, à les offrir en union avec Jésus sur la croix. Elles sont extrêmement fécondes. Voilà. Et puis, peut-être dernière chose pour terminer, nous souvenir finalement que la vie passe vite. Quand on est jeune, on s'imagine que la vie, ça dure une éternité. Et quand on commence à voir passer la cinquantaine, on se rend compte que c'est passé très vite. Et si vous interrogez un centenaire, eh bien, il vous dira, ma vie, c'est passé comme un claquement de doigts. Hein. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Hein. Et par contre, l'éternité, elle ne finit pas. Donc, il s'agit de ne pas rater l'aiguillage vers le ciel. Hein. Et cet aiguillage, eh bien, il est à chaque instant dans votre vie. Hein. Il y a toujours deux voies qui s'ouvrent devant nous. Hein. Une voie large et facile, qui conduit à la perdition, une voie étroite et resserrée, qui est la voie de l'amour, hein, qui suppose des efforts, mais la grâce nous précède toujours, hein, des renoncements, des morts à soi-même, mais à travers tous ces petits sacrifices consentis, eh bien, nous crucifions progressivement le vieil homme qui est en nous, l'homme de péché, hein, qui meurt, c'est le but de le faire mourir, à travers tous ces renoncements, et nous parviendrons au ciel à travers cela. Voilà. Donc, quand vous êtes dans des situations difficiles, pensez au ciel. Hein, c'est un excellent antidépresseur, beaucoup plus efficace que les neuroleptiques et tout ce que vous voulez. Bon, parfois, on a besoin de ces médicaments-là, mais c'est vraiment, ça doit être notre consolation, notre soutien dans ces épreuves. Et puis, rappelez-vous que la vie passe vite. Hein, donc, le diable cherche souvent, vous voyez, quand on est dans les épreuves, à nous hypnotiser, à nous omnubiler sur ce qui ne va pas, à nous donner l'impression que c'est insupportable, qu'on ne tiendra pas, que c'est pas possible. Hein. Eh bien, on a de grands frères, des saints qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert la route, en suivant le Christ bien sûr, mais tous les imitateurs du Christ, les saints, et nous-mêmes, nous sommes appelés à entrer dans cette voie du don de nous-mêmes qui nous conduira, après bien des tribulations, hein, au bonheur éternel. Amen.